à Rencontre spirituelle aujourd'hui. C'est le 150e anniversaire de la fondation des Sœurs de Miséricorde, ces sœurs qui ont rendu un tel service à Montréal et un peu partout. Depuis, quand on pense, 150 ans de dévouement sans borne dans des conditions extrêmement difficiles où il était à peu près impossible de faire ce qu'elles faisaient. Elles allaient contre les idées reçues, mais elles avaient l'appui de Mgr Bourget, évêque de Montréal, dont on peut voir le tombeau à la cathédrale. Homme exceptionnel, extraordinaire, dont je vous ai parlé d'ailleurs au mois de septembre. Ce sera donc un peu l'histoire de Rosalie Cadron-Jeté, cette mère de famille qui a mis 11 enfants au monde et qui aimerait voir éduquer les enfants qui lui restaient, car autrefois, évidemment, plusieurs enfants mouraient en bas âge, mais elle en a quand même élevé 6. Eh bien, après avoir élevé ses enfants, elle a fondé cette organisation, cette congrégation extraordinaire. Il y a donc 150 ans aujourd'hui, une simple veuve. De 51 ans, imaginez, 51 ans, et c'était moins jeune qu'aujourd'hui, 51 ans, dans ce temps-là. Hein? Alors, Rosalie Cadron-Jeté, à 51 ans, fonde, sur demande, donc, de Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, l'hospice de Sainte-Pélagie. On appelait ça l'œuvre scandale de 1845. Ce service à la mère célibataire s'occupait des mères célibataires qui étaient proscrites, qui étaient rejetées partout, même les familles les rejetaient. Hein? Et alors ce service à la mère célibataire naît dans un pauvre grenier d'une maison délabrée de la rue Saint-Simon à Montréal. C'est là où est la place des Arts. Aujourd'hui, vous connaissez la place des Arts, évidemment, rue Sainte-Catherine. On y montait de l'extérieur au moyen d'une échelle, imaginez. Et c'est le 1er mai 1845, donc, que la veuve jetée, Cadron jetée, grimpe à ce grenier accompagnée d'une jeune fille du nom de Domitille, qui est mère depuis quelques mois seulement, et ensemble, elles aménagent tant bien que mal, avec les pauvres choses qu'elles ont 100 fois rien, un refuge pour des filles qui étaient dites alors enceintes d'un commerce illégitime. C'est comme ça qu'on exprimait les choses. Un peu comme l'avortement, on appelle ça une interruption volontaire de grossesse. Il y a toutes sortes de mots hein, à travers les temps pour cacher ce qui ne devrait pas être caché. Et c'est là, dans ce taudis, ou dans cette mansarde, à demi enfoncée dans la terre, qui était aussi sujette à toutes les intempéries, hein. Ce taudis était, ou cette vieille maison, quoi, était glaciale en hiver, puis étouffante en été. Et c'est là que prend vie, si on peut dire, vie, la première maternité pour mère célibataire. Pour ainsi dire, s'ouvre en même temps, on peut dire, le postulat des dames de charité de Sainte-Pélagie. C'est comme ça qu'on les appelait au début, ce sont les futures sœurs de miséricorde. Impossible, évidemment, d'imaginer aujourd'hui des débuts plus humbles, sauf peut-être dans des pays de mission. Mais le pire, c'est qu'à cette extrême pauvreté s'ajoute la haine acharnée et implacable. Le rejet déchaîné et virulent d'une société rigoriste. Car assister les mères célibataires, c'est encourager le vice, hein, de ce qu'on pense. Ah oui, encourager le vice. Il vaut mieux, selon plusieurs, les abandonner seules à elles-mêmes dans la rue, ce serait le meilleur moyen de les corriger, pense-t-on. On est loin de Jésus hein, qui se penche sur la femme adultère. Et qui lui dit « va et ne pêche plus », mais qui lui dit avec beaucoup de bonté. Certains prêtres sont de cet avis d'ailleurs, à ce moment-là. C'est triste à dire. Et ce sont des prêtres qui racontent dans l'histoire de Montréal que leurs confrères ne comprenaient rien à rien, mais ils étaient le fruit d'une société. Un prêtre n'est rien d'autre qu'un homme qui naît dans une famille et qui reçoit de ses parents puis de son entourage des opinions. Et son cœur peut s'ouvrir grâce à l'Évangile, mais il s'ouvre pas toujours aussi bien qu'il devrait s'ouvrir. Hein? Et on peut pas leur reprocher, c'est normal, c'est l'humanité. On va jusqu'à traiter d'ailleurs Monseigneur Bourget, archevêque de Montréal, évêque de Montréal, de fou. On le trouve imprudent et fou, imaginez. Puis, la mère célibataire est presque rejetée partout par sa propre famille. Il s'ensuit que dans une société aussi intolérante que celle de Montréal à l'époque, et qui était la même chose à Londres, à Paris, partout, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, et c'était peut-être pire en Nouvelle-Angleterre, eh bien, ces gens, cette société qui ne comprend rien à rien par rapport à ce problème grave, eh bien, les problèmes de l'avortement clandestin, même de l'infanticide, on allait jusqu'à tuer les enfants, et même le suicide, évidemment, de ces pauvres filles, sont assez fréquents. Quant à Madame Cadron-Jetté, elle répète souvent, « Ah, ces filles-là sont mon cœur. » Imaginez qu'elle était complètement en dehors de tout ce qu'on pensait, sauf avec son évêque et quelques autres personnes. « Elles sont mon cœur, que c'est beau. Hein? » Mais d'où vient-elle, cette Rosalie Cadron? Mais s'est mariée à 17 ans, un homme fort bien, Jean-Marie Jetté, plus âgé qu'elle, le 7 octobre 1811. J'espère pouvoir vous en parler le 7 octobre de bientôt, là, dans quelques mois. Ils se sont mariés à Saint-Antoine de la Valtrie. Et Rosalie Cadron, dont je vous ai dit, a donné naissance à de nombreux enfants, 11 enfants, hein. Mais son mari, qu'elle aime beaucoup, est emporté par une épidémie de choléra, c'est l'épidémie du siècle, en 1832. Et puis, elle, âgée de 38 ans, est veuve. Elle a la responsabilité, ou à ce moment-là, de 7 enfants, dont l'âge varie entre 1 et 20 ans. Ils ont donc été mariés 20 ans, presque 21 ans. C'était un bonheur matrimonial vrai. Un bonheur familial aussi. Et Madame Jetté est inconsolable. Mais cette réalité ne l'empêche pas d'espérer en l'avenir. Elle s'abandonne à Dieu, à la bonté de Dieu. Ce qu'on appelait et qu'on appelle encore la providence, c'est un mot qu'on utilise moins souvent, on dit plus concrètement à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça la providence. Parce que l'amour de Dieu veille sur nous. Ensemble, elle et son mari ont appris à donner un sens à toutes leurs épreuves et leurs souffrances, et envers et contre tout, ils ont toujours su garder confiance en Dieu, confiance en Dieu. Aussi, Rosalie Cadron-Jetté ne se replie pas sur elle-même, ses enfants sont là, sa vieille mère aussi. Ils ont besoin d'elle et cela lui suffit. En 1838, donc 6 ans après la mort de son mari, la veuve Jetté est finalement libérée de toute responsabilité familiale. Les 6 enfants qui ont survécu aux épidémies infantiles de l'époque, là, peuvent maintenant subvenir à leurs besoins. Et alors, Rosalie Cadron-Jetté partage son temps entre la prière et le service. Elle ne se noie pas dans la prière. C'est une femme de service exceptionnelle, c'est absolument extraordinaire. Hein? Elle est à l'affût vraiment de toutes les misères corporelles et spirituelles des quartiers pauvres de son milieu. Et ce ne sont pas des mots, ça. Je ne suis pas en train de vous dire des mots. Je vous dis des réalités. Elle est à l'affût de toutes les misères corporelles et spirituelles des quartiers pauvres de son milieu, là. Dans le bout là, de la place des Arts, la rue Wolfe et tout ça où elle a vécu aussi. Monseigneur Bourget, qui la dirige depuis son arrivée à Montréal en 1827, avant même qu'il ne soit évêque, demeure attentif à cette femme, il l'a remarqué. Il a remarqué sa compassion, sa simplicité. Et Mgr Bourget, qui est un grand évêque, même si on peut lui reprocher certaines choses, bon, il était sous certains rapports, disons, très conservateur, mais sous d'autres rapports, comme vous voyez, par rapport avec Rosalie Quatron-Jeté, il est à l'extrême avant-garde. Parce que son cœur de véritable évêque est ouvert aux vraies réalités de l'Évangile. Il la voit, elle, toute désignée pour une œuvre qui lui tient beaucoup à cœur. Alors en 1840, donc 2 ans plus tard, elle a 46 ans déjà à ce moment-là, il lui demande donc de faire le tri parmi ses œuvres de miséricorde, pour ne s'occuper finalement que de l'assistance aux mères célibataires. Et durant 5 ans, Mgr Bourget lui envoie des femmes qui viennent lui confier leur désarroi face à leur grossesse hors mariage. Ce qui était terrible à l'époque. J'avais un cousin, moi, qui était né hors mariage, de ma tante que j'aimais beaucoup. Et ce cousin s'est toujours senti mal dans notre famille. Je ne sais pas pourquoi. Il était né vers 1890. Il a déjà plus de 100 ans. C'était mon cousin Germain. Il portait notre nom. Mais on dirait qu'il ne se sentait pas de la famille. Quelle tristesse. J'aimerais le retrouver maintenant, il est trop tard. Alors, Madame Jeté ne refuse aucune des filles que lui amène l'évêque, ou que le lui envoie. Elle trouve un toit pour chacune d'elles, chez ses propres enfants, qui partagent passablement les idées de leur mère, mais qui trouvent qu'elle exagère un peu, ou bien les place dans des familles de bienfaiteurs. Elle les accompagne, elle les aide. Elle les aide à reprendre confiance en elles-mêmes, c'est ça le problème souvent. Elle les fait espérer de nouveau en la vie, le respect de la vie. La vie, c'est ce que nous avons de plus précieux. Mais arrive le moment où il n'y a plus de place disponible. Il faut dire que la plupart des familles hésitent à héberger chez elles de semblables personnes. Quand on adopte quelqu'un de ce qu'on appelle les plus bas étages de la société, plus bas étages entre guillemets, hein, j'utilise le langage des gens, on passe pour des fous. Mais ce serait salir leur réputation, ces gens-là, se faire à jamais bannir des milieux dits honnêtes, et oui, on passe pour toutes sortes de choses quand on fait ça. Car ce qui prime souvent dans l'esprit des gens, c'est le chic. L'Évangile vient ensuite, loin derrière. On dit au fond à Jésus, « Assis-toi avec ton Évangile. Moi, j'ai autre chose à faire, j'irai te voir dimanche matin. » Et on s'occupe de la messe, mais l'Évangile. Et le nombre croissant là, des maternités angoisse l'évêque de Montréal. D'autant plus que ces filles, qui sont le scandale de l'époque, sombrent souvent dans le désespoir, les pauvres malheureuses. Mais devant un tel mal social jugé incurable par les pharisiens modernes, Mgr Bourget doit agir avec prudence et discrétion. Ils font de grands espoirs sur le charisme de miséricorde de cette veuve, Rosalie Quatron-Jeté, qu'il connaît depuis 18 ans. Alors de 1840 à 45, il l'a vu se dévouer sans compter au service de ses pauvres filles, malgré les critiques et les humiliations de toutes sortes et qui viennent de tous côtés. Elle va droit son chemin, méprisant les mépris du monde, et probablement des lettres anonymes détestables et effroyables. Alors, assuré qu'il est de la vertu extraordinaire, indéniable, de cette femme extraordinaire, Mgr Bourget, décide de fonder une communauté dont la mission sera d'assister les mères célibataires, donc, et de sauver leurs enfants. De sauver leurs enfants d'une mort certaine. Il ne voit que Mme Jeté comme fondatrice d'une telle œuvre. Comme il dit, la plus belle et la plus audacieuse de toutes les œuvres. Elle est née de son cœur de père. Un évêque, c'est un père. les origines des communautés de femmes, fondées sous l'épiscopat de Monseigneur Bourget, démontrent que c'est la seule des Sœurs de Miséricorde dont il a pris lui-même l'initiative. Les autres lui ont été proposées. Si vous voulez lire un peu tout ça dans un livre écrit par Yvon Langlois, qui a une émission le mardi à 19h à Radio Ville-Marie, il a écrit un beau livre, Une lanterne dans la nuit. Rosalie, sage femme. Un beau livre, bien présenté, et que l'on peut se procurer chez lui. Vous pouvez toujours demander à Radio Ville-Marie. Et j'ai goût de vous lire quelques lignes pour vous donner le goût. Les premiers temps de la communauté sur la rue Wolfe. Comment se fait-il qu'il y ait une rue Wolfe à Montréal? Celui qui a conquis notre pays, c'est absolument étrange. C'est un quartier canadien-français en plus de ça. Étrange, étrange. Nous sommes les seuls au monde à avoir des choses comme ça. Je suis sûr, ça n'existe dans aucun autre pays du monde. Enfin, je rigole un peu là, mais soyons sérieux. Les premiers temps de la communauté sur la rue Wolfe paraissent bien éloignés dans le temps. Mais c'est de l'histoire de chez nous, écrite par de vaillantes et courageuses femmes. Ce qu'elles ont vécu en partageant la vie de celles que la société du temps rejetait comme des rebuts, mérite une attention toute spéciale. Dans un album de famille, il y a de vieilles photos qu'il faut scruter à la loupe et on y découvre des trésors. Je veux en présenter 5, écrit l'abbé Yvon Langlois. Nous sommes en un splendide 26 juillet 1846. Elles sont 5 qui commencent leur noviciat. Rosalie, Sophie, Elisabeth, Geneviève et Lucie. Elles avaient de beaux noms, de beaux prénoms. Les 5 premières novices de la communauté. Monseigneur Bourget est là, droit et solennel sur la photo. Il remet à Rosalie un règlement pour les directrices et un autre pour les pénitentes. Le noviciat vient de commencer officiellement. Chacune des novices reçoit une obédience et pour sa part, Rosalie est affectée à l'accueil des aspirantes et des filles enceintes. Elle sourit de contentement. C'est quelque chose qui lui va comme un gant, compte tenu de sa facilité à gagner les cœurs par sa tendresse et sa simplicité. Puis un homme sec et austère apparaît, l'abbé Antoine Ray, R-E-Y, le directeur du nouvel hospice, un ascète au visage émacié par le jeûne et l'abstinence. La chapelle, une toute petite chambre, ne peut contenir tout le groupe à la fois. Les sœurs doivent se tenir devant la porte avec les pénitentes, faute d'espace. Quand il faut s'installer pour la nuit, les filles s'éparpillent ici et là pendant que les sœurs grimpent au grenier, un pigeonnier, où chacune a toutes les difficultés du monde à passer entre les lits. À peine arrivées au comble, elles se sentent comme imprégnées d'une moiteur qui flotte dans l'air, car c'est là qu'on fait sécher le linge avant leur passage. Par ailleurs, le ciment des murs, depuis peu réparé, n'est pas encore sec. L'humidité suinte de partout. L'étroitesse d'esprit, la mentalité du temps rendait difficile la vie des filles qui vivaient chez les sœurs. Si par hasard quelqu'un se présentait à la porte, c'était la panique. Les filles se précipitaient pour se cacher en un endroit quelconque par crainte d'être reconnues. Imaginez, c'est incroyable. Tout le monde aurait pu le savoir dans leur village respectif. Car ces filles venaient souvent de la campagne, enceintes, et elles devaient mettre leurs enfants au monde, ici à Montréal, dans l'ombre, cachées. Inconnu. L'abbé Langlois continue, je lis encore quelques lignes. Rosalie avait aussi loué le bas du deuxième côté de la maison pour les mères célibataires. Elle ne pouvait pas louer toute la maison parce que le charretier habitait en haut avec sa famille. Encore un sujet de gêne, surtout quand les filles accouchaient. En plus, les mères célibataires ne pouvaient pas sortir dans la cour sans être vues. Elle tenait à rester à l'abri, de tout regard indiscret, préférait ne pas sortir. Bien difficile à comprendre pour des filles de notre temps. Alors bien des gens fortunés auraient pu aider l'œuvre naissante. Mais ces gens-là n'osaient pas mettre les pieds à la maison et ils disaient que c'était une maison de perdition. Et fréquemment, les sœurs manquaient de nourriture. Et je termine en lisant ces dernières lignes de cet ouvrage, je rappelle le titre, « Une lanterne dans la nuit, Rosalie, sage femme », par Yvon Langlois, l'abbé Yvon Langlois, qui a une émission à Radio Ville-Marie chaque semaine, le mardi à 19h. Je lis la fin parce qu'il lui est question de quelqu'un. Malgré tout, il se trouvait du monde charitable. En plus du bon monsieur Berthelet, vous vous souvenez, le 25 septembre dernier, je vous en ai parlé. Et c'est le 30 septembre que j'ai parlé de monseigneur Bourget. Alors il y avait donc, en plus du bon monsieur Berthelet, un monsieur Pierre Baudry, qui venait souvent à la rue Wolfe. Il faisait le tour des bouchers et arrivait avec une poche pleine, qu'il vidait sur le plancher en criant d'une voix forte. « Tiens, les petites, j'ai pour vous autres des jarrets de bœuf, de moutons et de veaux, des fraissures de toutes sortes. Payez le charretier maintenant. » C'était un bon diable. Il rendait de grands services à la maison. Comme quoi la charité peut s'exercer de façon assez originale, surprenante et merveilleuse. C'est ce qui se fait aujourd'hui, hein. Partout, ici, au Québec, c'est merveilleux. Dans ce temps de désolation que nous vivons ces jours-ci. Désormais, Rosalie Cadron-Jetté, donc fondatrice et première postulante de cette œuvre chrétienne par excellence, s'enfonce dans l'humilité puis la pratique de la miséricorde au milieu de ces femmes, souvent en état de crise. Elle les assiste avec une compassion vraiment exceptionnelle. Puis une patience aussi à toute épreuve, car ça prend beaucoup de patience. Elle s'identifie à ses mères en détresse. Elle s'identifie même à leurs enfants. Elle se lance dans une aventure où elle tient à tout donner. Elle tient à donner son temps. Je dirais qu'elle tient à donner son corps, son âme, sa vie. Il y a 100 ans aujourd'hui, le 16 janvier 1848, date de fondation de l'Institut des Sœurs de Miséricorde, elle fait vœu de vivre la miséricorde de Jésus Sauveur avec les filles et les femmes dont l'amour a été blessé. C'est ce qu'elle dit, ce sont ses paroles. Vivre la miséricorde de Jésus Sauveur avec les filles et les femmes dont l'amour a été blessé. Blessé par ceux-mêmes qui aujourd'hui les bafouent. Les hommes. Pourquoi elle les bafoue? Parce qu'elles sont mères. Parce qu'elles sont mères. C'est ainsi que depuis le 1er mai 1845, des milliers de mères célibataires se sentent enveloppées de la miséricorde du Seigneur, manifestée par cette simple femme, qui a pris le nom de Mère de la Nativité. Quel beau nom pour cette femme, hein? Sœur de la Nativité et Mère de la Nativité par après. Elle veille aussi comme mère sur ses filles religieuses qu'elle aime. Elle a une pédagogie incomparable, cette femme de chez nous. Elle a des entrailles de miséricorde, comme on a dit. Elle est certifiée, à un moment donné, sage-femme avec ses sœurs. Elle est entourée de soins par ses sœurs qui deviennent, elles aussi, certifiées sages-femmes en 1849 par le Collège de chirurgie et de médecine du Bas-Canada. Elle a le don de respecter la vie, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur dans chacune de ses filles, porteuses de vie, et de leur redonner confiance en leur valeur de femme. En ce sens, Rosalie Cadron-Jetté est une page de l'Évangile de la vie. Vous connaissez ça, l'Évangile de la vie? C'est l'encyclique de Jean-Paul II. Avez-vous lu ça? C'est merveilleux. On dirait que c'est une encyclique qui a été inspirée par Rosalie Cadron-Jetté. Cette femme des béatitudes, comme on l'a appelée, est décédée à 70 ans. Elle est une source d'inspiration pour notre monde. Elle est aussi un appel à tous ceux et celles qui ont peur de vivre et de faire vivre. Peur de vivre et de faire vivre. C'est absolument inconcevable. Comment les gens ne comprennent à peu près rien à la vie? Je vous lis quelque chose encore de l'abbé Langlois qui est absolument magnifique et qui mérite vraiment d'être connu. En 1864, Monseigneur Bourget fit une visite canonique. Il vint la voir souvent. Ils discutèrent ensemble des grandes lignes des constitutions. Et Rosalie voulait qu'il n'y ait plus de rancœur, d'animosité, de cancan, de murmures, de plaintes, de clans, de rivalités. Il en existe tellement dans notre Église que c'est pénible. Et l'abbé Langlois continue en parlant de Rosalie Cadron-Jetté. Elle voulait que les sœurs vivent la miséricorde de Jésus avec les filles et les femmes en situation de maternité hors mariage et leurs enfants, et avec les mères de famille vivant difficilement leur maternité. Voilà ce qu'elle voulait. Évidemment, elle se rendait bien compte qu'on ne pouvait pas apporter cette mansuétude aux filles et aux mères si les sœurs n'avaient pas entre elles cette belle charité, la plus belle des vertus. Car Rosalie Cadron a donné sa vie pour que vive la vie. En des milliers de mères en détresse, elle respectait les personnes. Oui, c'est une femme qui sait les regarder de l'intérieur, qui les aide à grandir en allant chercher ce qu'il y a de meilleur en elles. Parce que le respect de la vie, ça s'arrête pas évidemment à donner la vie, à lui permettre de naître. Le respect de la vie, c'est plus que ça. Ça consiste à faire vivre la vie, à aider la vie à grandir. Et Madame Jetté l'a bien compris. Elle sait accueillir avec une tendre compassion toutes les filles et les femmes enceintes en dehors du mariage. Elle a un don particulier, cette femme, pour leur redonner confiance en leur valeur de femme et de mère, qui sont de très grandes valeurs, je tiens à insister. Elles sont bafouées de nos jours, mais les valeurs de femme et de mère sont immenses. Vous souvenez-vous de la définition de la miséricorde de Jean-Paul II dans son encyclique La Miséricorde Divine, publiée en 1980? Il écrit, et je crois que c'est le moment ou jamais d'y revenir, alors qu'un désastre accable des centaines de milliers de Québécois. Voici ce que le pape dit. La signification véritable et propre de la miséricorde ne consiste pas seulement dans le regard. Fut-il le plus pénétrant et le plus chargé de compassion, tourné vers le mal moral, corporel ou matériel? Non, la miséricorde se manifeste dans son aspect propre et véritable quand elle valorise, dit le pape, quand elle promeut et quand elle tire le bien de toutes les formes de mal qui existent dans le monde et dans l'homme. Il y a donc 150 ans aujourd'hui, le 16 janvier 1998 aujourd'hui, que ce Dieu de compassion que nous adorons et que nous aimons a appelé Rosalie Cadron-Jetté à aider la vie à naître, à la promouvoir puis à l'aimer, l'aimer. C'est une mission tout à fait d'actualité. Grâce au oui de Madame Jetté, les sœurs de miséricorde continuent d'accueillir et d'accompagner, à la suite de leur fondatrice, les mères qui sont en détresse, puis leurs enfants. Et l'histoire de Rosalie Cadron est une belle histoire d'amour. C'est triste qu'elle n'a laissé aucun écrit, mais ses paroles et ses gestes étonnent, et sa vie tout entière, c'est une page pétrie de l'évangile des béatitudes. Ses mères entraînaient bien des préjugés, les mères célibataires, parce que, enceintes hors du mariage, elles sont condamnées par une société qui est bien rigoriste sous bien des aspects. Elle avait des aspects positifs, cette société aussi. Faut pas l'accabler, faut pas accabler nos ancêtres. Ils étaient le fruit de tout un monde qui était partout comme ça. Vous savez que c'est encore aujourd'hui comme ça chez les musulmans. Hein? En 1997, même une fille qui se permet quelque chose sans avoir d'enfant, hein? C'est très, 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 très strict. Les préjugés envers ces femmes sont alors sans pitié. La mère est à jamais stigmatisée ainsi que son enfant, qui est considéré comme illégitime, comme on disait dans mon jeune âge, ou, on disait plus ça dans mon jeune âge, enfant du péché. Mais on a déjà dit ça. Je vais vous lire une pages très impressionnantes que m'a envoyé Sœur Boucher, Gisèle Boucher, une sœur de miséricorde évidemment. Pages très impressionnantes des mémoires de l'abbé Pierre Poulain, c'est dans les archives des Jésuites. C'est au sujet de la fondation de l'œuvre dite de Sainte Pélagie, c'est-à-dire l'œuvre des Sœurs de Miséricorde. Hein. Cette institution nouvelle, c'est le texte de l'abbé Pierre Poulain. Cette institution nouvelle, en son genre, suscita à Monseigneur Bourget des difficultés de toute espèce. Il eut à rencontrer une opposition constante, je dirais même acharnée, de la part de plusieurs ecclésiastiques de Montréal. C'est un prêtre qui écrit ça. Quelques-uns même, ajoute-t-il, quelques-uns même de la campagne le blâmèrent assez ouvertement. Partout, on disait que c'était un encouragement au crime. Aussi, les personnes dévouées qui crurent devoir entrer dans cette communauté furent-elles tout d'abord honnies et méprisées. Vous savez, ça te prenait du courage, hein, pour une femme d'entrer dans une communauté qui faisait quelque chose qui était à l'encontre de tous les préjugés. On ne peut qu'avoir de l'admiration pour ces Québécoises, ces Canadiennes qui sont entrées dans cette communauté au siècle dernier, et encore aujourd'hui, évidemment, ces femmes qui sont toujours là. L'abbé Pierre Poulain ajoute, seul Monseigneur Bourget les consolait et les fortifiait. Que de dédain et de mépris n'essuyèrent-elles pas quand elles allaient à la paroisse faire baptiser les nouveaux-nés, imaginez. Elles avaient aussi à souffrir les humiliations quand elles allaient les déposer dans un hôpital destiné à recevoir des malheureux enfants. C'est l'hôpital général des Sœurs Grises de Montréal. Hélas, ajoute l'abbé Poulain, hélas, les personnes qui agissaient ainsi recevaient les inspirations de ceux qui croyaient de leur devoir de s'opposer en toute chose aux œuvres de l'évêque qui avait le grand tort à leurs yeux de rompre avec le statu quo si puissant et de briser les usages reçus. Malgré toutes les avanies que Monseigneur Bourget eut à souffrir à ce sujet, il marcha courageusement dans la voie qu'il croyait la plus sûre et la plus profitable à ses ouailles. Donc, en effet, la plupart des témoins oculaires de 1879-1880 soulignent aussi, en parlant de la fondatrice et de ses compagnes, qu'elles n'ont pas été épargnées du côté du monde, qui se servait des termes les plus bas, les laïcs, là, se servait des termes les plus bas, les plus ravalants pour les mépriser et les insulter. Elles étaient déshonorées dès qu'elles entraient comme postulantes dans cette maison. Les laïcs. Avant de porter des jugements, nous les laïcs, il faudrait bien qu'on fasse notre mea culpa. Avant de s'épouvanter devant les massacres qui ont lieu à travers le monde, pensons aux massacres que nous faisons dans notre propre pays avec nos enfants à naître, que ces femmes ont chéri et aimé. Ce sont des gens extraordinaires, hein? Extraordinaires ces femmes, exceptionnelles. Mère de la Nativité est tombée gravement malade avant de mourir, mais comme cette malade est d'une grande lucidité, on peut discuter avec elle de la refonte des constitutions. Monseigneur Bourget lui a rendu visite avant qu'elle meure. Une visite pastorale qui constitue un grand tournant pour l'Institut des Sœurs de Miséricorde. Leur mission demeure toujours la même, et désormais, les Sœurs de Miséricorde n'exerceront plus le métier de sage-femme. Alors là, les moyens d'assister la mère et son enfant vont varier selon l'évolution de la société, puis aussi la compréhension des droits des personnes, indépendamment de leur situation. Toute personne a des droits, même les gens les plus humbles et les plus simples. Les orphelins seuls dans la rue, qui ne savent où aller dormir, et qui ont 18, 19, 20 ans. C'est une tristesse épouvantable. On les regarde en passant, puis on dit, je me demande pourquoi ils travaillent pas. Mais oui, ils sont seuls. Les besoins de la mère célibataire et de son enfant, bien que toujours fondamentalement les mêmes, ça change au rythme de leur milieu, puis du temps où elles évoluent. Alors, les services nécessaires aujourd'hui ne sont plus les mêmes, mais c'est toujours urgent et exigeant. Les Sœurs de Miséricorde ne sont pas seules pour assister les femmes en détresse puis leurs enfants. Il y a la famille de la Miséricorde aujourd'hui, qui est là pour les épauler. Qu'est-ce que c'est ça, cette famille de la Miséricorde? Eh bien, tout au cours de l'histoire de l'Institut des Sœurs de Miséricorde, fondé, je vous le rappelle, il y a 150 ans aujourd'hui, les laïcs ont collaboré à leur mission de miséricorde, car il y a toujours eu, heureusement, des laïcs et des prêtres pleins de compréhension qui les ont appuyés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Avec les années, ces liens ont donné naissance à une grande famille spirituelle et apostolique qu'on appelle la famille de la miséricorde. C'est un réseau composé, vous allez peut-être être un peu surpris, de différents groupes de chrétiens qui désirent partager l'héritage spirituel et apostolique des Sœurs de Miséricorde. Je vous explique ça un peu. Tous les membres de cette famille s'appliquent, encore aujourd'hui, là, à vivre la miséricorde au cœur du monde. Vivre la miséricorde au cœur du monde. En se nourrissant de la spiritualité de cet institut des Sœurs de la Miséricorde. En étant aussi solidaires de la mission propre de cet institut, de cette congrégation. Selon, évidemment, leur disponibilité comme laïque, leur état de vie, leur engagement en rapport avec le groupe de la famille de la Miséricorde auquel ils ont adhéré parce qu'il y a différentes sections. Les Sœurs de Miséricorde, qui depuis 150 ans aujourd'hui même vivent la miséricorde de Jésus Sauveur, comme ils disent avec les filles et les femmes en situation de maternité hors mariage et leurs enfants, mais si ça forme, les Sœurs de Miséricorde forment le noyau de la famille de la Miséricorde. Alors ces sœurs-là partagent leur charisme, leur mission, leur spiritualité avec sept groupes. Je vous lis les titres de ces groupes, il y en a peut-être qui vont vous intéresser. Il y a les Amis de la Miséricorde, le groupe Miséricorde et Vie, le réseau de prière, les collaborateurs collaboratrices évidemment, le groupe Héritage, les œuvres sœurs, il y a même les vues privées, il y en a qui font des vues privées. Puis il y a les parents, c'est un nouveau groupe. Qu'est-ce que c'est que les Amis de la Miséricorde? Le premier groupe là. Le groupe des Amis de la Miséricorde est formé de chrétiennes et de chrétiens qui se sentent appelés à devenir des missionnaires de la Miséricorde au cœur du monde en lien avec la mission des Sœurs de Miséricorde. Et après un cheminement plus ou moins long, dans le groupe, là, chaque membre s'engage sérieusement chaque année en Église à vivre la Miséricorde au cœur du monde en solidarité avec la mission des Sœurs de Miséricorde, comme je vous disais tout à l'heure. Le deuxième groupe, c'est le groupe Miséricorde et Vie. C'est une cellule de vie réunissant des jeunes, oui, des jeunes de 18 à 35 ans. Des jeunes qui sont interpellés par cette mission et ce charisme des Sœurs de Miséricorde. Alors, après avoir cheminé un certain temps dans cette cellule de vie Miséricorde et Vie, là, chaque membre de 18 à 35 ans s'engage de façon officielle à vivre la spiritualité et à collaborer d'une certaine façon, à la mission des Sœurs de Miséricorde. Et cet engagement est d'une durée d'un an renouvelable, donc autant de fois que le jeune le désire. Je vous parle aussi du réseau de prière, qui est formé de personnes qui participent à la mission de la Miséricorde. En portant dans leur prière, avez-vous déjà prié souvent pour les mères et les enfants qui sont en difficulté? Et qui sont confiés à la famille de la Miséricorde, ses mères et ses enfants. Elle prie aussi ces personnes-là pour toutes les intentions des Sœurs de Miséricorde. Elles sont appelées aussi Amies de la prière, les membres de ce groupe, le réseau de prière. Elles soutiennent l'action de ceux et celles qui accompagnent les mères et leurs enfants. Et ces femmes et ces hommes s'engagent à prier, donc pour une mère et son enfant, pour une période de 1 à 4 ans. À la suite de son engagement, la personne qui a décidé de prier comme ça reçoit une carte portant même les prénoms seulement, de la mère et de l'enfant pour lesquels elle prie. Alors une fois la durée de son engagement terminée, la personne qui prie comme ça est invitée à renouveler si elle le veut et peut même y ajouter le nom d'une autre famille monoparentale. Puis il y a les collaborateurs, les collaboratrices dont je vous ai parlé là. Ce sont des salariés ou des bénévoles engagés dans les œuvres des Sœurs de Miséricorde, dans des fonctions de toutes sortes. Et ces personnes s'alimentent donc à l'esprit de miséricorde. Puis elles en nourrissent leur action, là. Elles sont présentes dans toutes les œuvres de l'Institut au Canada puis aux États-Unis, ça va jusqu'au Wisconsin. Tout collaborateur donc et collaboratrice s'applique à vivre de l'esprit de miséricorde, puis tente d'en imprégner le milieu. Imprégner le milieu où il accomplit sa tâche, mais sans engagement officiel. Enfin, il y a tellement d'autres groupes, les œuvres sœurs, qui sont des organismes fondés par des personnes autres que les sœurs de miséricorde. Mais dont l'objectif est orienté vers la même mission, ces œuvres s'inspirent du charisme de Rosalie Cadron-Jeté. Ça alimente leur action puis la spiritualité de la miséricorde. On compte des œuvres sœurs au Québec, à Montréal, à Saint-Eustache, à Gatineau, puis même en Équateur, à Guayaquil. Donnez de votre temps au service des mères célibataires de leurs enfants, comme à la petite maison de la miséricorde, qui soutient la mère célibataire et son enfant. Au moyen de toutes sortes de services, un service d'accompagnement, de halte amitié, d'écoute téléphonique, un service de pastoral, des ateliers de formation variés, service de loisirs, une garderie aussi, un centre de jour pour enfants. C'est absolument étonnant, vous pourrez vous renseigner et apprendre tout ça, c'est merveilleux, ce qui se passe encore aujourd'hui de leurs activités, partout où elles sont, natives, retraitées ou malades. Les sœurs de miséricorde poursuivent la mission de l'Institut selon le charisme de Rosalie Cadron-Jeté, lequel cet Institut a été reconnu par l'Église en 1848, il y a 150 ans. Aujourd'hui, je le répète, Monseigneur Bourget était un homme de discernement en tout ce qui a trait à cette communauté. Il a su choisir, c'est lui qui l'a choisi, Rosalie Cadron-Jeté, femme humble et effacée, qui a vécu non seulement une riche expérience comme épouse, hein, mère de 11 enfants, elle en a élevé 6 qui ont survécu. Donc mère, épouse, mère, veuve, une veuve à 38 ans. Mais qui a vécu aussi une grande compassion avec toute personne, quelle que soit, n'importe laquelle. Ses différents états de vie l'ont préparé à comprendre, à aider, à aimer les mères en détresse et leurs enfants. Je pense à ce témoignage de sa sœur Sophie Cadron, qui a été dictée puisqu'elle ne savait pas écrire. Ça date de 1880. Écoutez bien ça, c'est très beau. Premièrement, ma sœur Rosalie était de sang noble. Je trouve ça sympathique. Elle ajoute, elle aimait à apprendre aux enfants leur catéchisme et leurs prières. Elle leur parlait des beautés du ciel et des bontés de Dieu. Et elle leur rappelait ce que Dieu avait fait pour nous et ce qu'il faisait encore chaque jour. Il n'y avait pas de borne à sa charité. Écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est sa sœur qui parle. Il ne passait jamais un pauvre sans qu'il ne fût assisté. Je l'ai vu aller chercher des pauvres familles errant dans les rues et leur donner l'hospitalité. Si c'était dans l'hiver, elle les accueillait et les nourrissait plusieurs jours même. Ça se fait aujourd'hui, il y a des Québécois qui font ça, actuellement, à cause de ce désastre du verglas. Et sa sœur Sophie ajoute, « Je l'ai vu prendre du butin de sa maison pour vêtir les pauvres passants, ou bien pour ensevelir les morts. Je l'ai vu prendre ses volailles et ses œufs et les porter aux pauvres malades, et cela en grande quantité. Jamais elle ne disait de paroles blessantes à qui que ce soit. Elle avait une union parfaite avec son mari et tout le monde. Elle était toujours contente et joyeuse. Elle n'était jamais de mauvaise humeur. Quand elle corrigeait ses enfants, elle les corrigeait toujours avec douceur et prudence. Elle avait soin de tout ce qu'elle possédait. Tout était à sa place et tout était propre dans sa maison. En un mot, il n'y avait rien à répliquer sur tout ce qu'elle faisait. Elle admirait sa sœur, hein? Elle avait bien raison. Et le charisme de miséricorde de sa sœur, qui a été transmis à chaque sœur de miséricorde lors de sa profession, depuis 150 ans, mais il est actualisé, alimenté par tous ces services adaptés aux mères et à leurs enfants, puis dans la famille de miséricorde dont je viens de vous parler. L'essentiel y est quand on lit ce qui est dit. C'est une lettre du père Alfred Ducharme à sœur Jeannine Vallière, la supérieure générale, de 1987 à 1996. C'est très beau ce qu'il dit. L'essentiel y est, nature, apostolat, engagement et fonctionnement. Seulement le minimum requis pour assurer un bon fonctionnement. Surtout, ce qui unit les membres de la grande famille de miséricorde, c'est un esprit et une spiritualité. Cela est important. C'est alors le cœur qui rapproche les gens et fait l'unité, non pas un cadre. Et ce Jésus ajoute, je vois avec joie que les sœurs se penchent sur des projets de solidarité et de promotion collective par une lutte ensemble pour plus de justice sociale. Ce sont des sœurs qui soulèvent le cœur des laïcs. Et cela, dit le père Alfred Ducharme, le jésuite, cela rejoint le désir exprimé par le pape dans l'encyclique sur le souci de l'Église pour le problème social. Et quant au réseau de prière, il dit « Je suis très heureux que vous ayez intégré cette dimension dans votre famille. Tout cela me plaît énormément. Vous faites œuvre de prophète, mes sœurs, et je crois que d'autres congrégations s'inspireront de vous. » C'est donc pleine d'assurance que Rosalie Cadron-Jeté a abandonné au Seigneur sa mission. Sa mission dans l'Église. Sûre de sa fidélité du Seigneur, de Père tendre. Oui, Dieu est un Père tendre et compatissant pour toutes ces mères en détresse et ces enfants envers lesquels la société est toujours plus ou moins hostile, sinon indifférente, malheureusement même aujourd'hui. Elle espérait grandement, s'appuyant en cela sur la miséricorde de Dieu, que la maison ne tomberait pas, qu'elle persévérerait, qu'il y viendrait des âmes ferventes qui continueraient ce qui avait été commencé. Sa foi est exaucée puisque son institut a été projeté jusqu'à nos jours avec un élan qui tient du miracle. Aujourd'hui encore, cet institut, cette congrégation est animée de l'esprit des béatitudes. Et la grande famille de la miséricorde, qui comprend de nombreux laïcs et des prêtres, accueille et assiste chaque année des centaines de filles et de femmes désemparées qui sont laissées à elles-mêmes sans ressources, avec la responsabilité d'enfants à naître. C'est pas rien, un enfant à naître. On ne jette pas ça à la poubelle. Elles ont la responsabilité d'enfants à naître et à faire vivre et à accompagner. Merveilleuse mère de la Nativité, Rosalie Cadron-Jeté, je vous supplie de nous éclairer, nous, Québécois, Québécoises, à comprendre ce que l'Église nous rappelle sans cesse et encore au dernier jour de l'année, lors du dernier Angélus de l'année 97, Jean-Paul II disait « La famille est la fondation et le garant d'une société réellement libre et compacte. Mais c'est à nous de sauver ceux qui n'ont pas de famille, pour qu'ils aient une famille grâce à nous. Seigneur, aidez-nous, aidez-nous. »